Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
On connaissait les concepts store à Paris il y a une dizaine d'années. Voici maintenant les concepts street. La rue des Martyrs dans le 9e arrondissement à Paris est en passe d'en devenir une. La jeune rue en est le projet le plus fou. Elle est née il y a 4 ans dans l'esprit aventureux d'un homme qui se définit alors comme un éditeur de lieux à vivre ou à manger. La jeune rue incarne ce qu'il nomme son rêve humaniste devenu réalité. L'autre mot utilisé, c'est un hub gastronomique. Car dans la concept street, on mange des vaches nourries au cidre de Normandie, des cochons quintois élevés en semi-liberté au Pays Basque bien sûr, un miel de maquis de l'île de Beauté, des semences anciennes évidemment, encore plus que bio, naturelles, raconte l'Express qui consacre au projet un grand cahier style avec des tas de photos des futures boutiques, en gros des devantures fermées. Sont prévues exactement 36 boutiques, restaurants et commerces de bouche, des lieux à vivre et à manger, tous responsables, écolos, locavores, activistes. Toutes tenues par des stars de la restauration équitable, des chefs étoilés. Le boss de tout ça prévoit même de créer une exploitation de 2000 hectares près de Fontainebleau pour y cultiver des céréales destinées à fabriquer un pain 100% naturel, toujours d'après l'Express. À l'époque, nous avions commencé à raconter cette histoire rocambolesque dans Les Pieds sur Terre avec un soupçon de soupçon. Elle nous avait d'autant plus intriguée qu'une de nos productrices, Ilana Navarro, habite dans cette rue qui jusqu'à aujourd'hui s'appelle encore la rue du Verbois à Paris. 4 ans plus tard donc, après que le fameux éditeur de lieux à vivre ou à manger s'est avéré un escroc de haut vol, nous y sommes retournés voir ce que ce Madoff parisien, Cédric Naudon, avait laissé comme trace.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je me suis lancé une idée folle. Une idée folle de créer dans Paris un quartier de 3500 m² qui serait un lien direct entre les producteurs et les consommateurs.
Il y a 4 ans, du jour au lendemain, mon quartier est devenu le plus en vue de tout Paris.
Ce quartier est au carrefour de 3 rues.
De New York à Londres, toute la presse parlait du projet d'un certain Cédric Naudon.
La rue Volta, la rue Notre-Dame de Nazareth et la rue Verbois. On aura 36 commerces, 36 commerces de bouche. 36 commerces, tous dédiés à un certain type d'agriculture. En fait, je vous parle d'un projet qui s'appelle la Jeune Rue.
Pourtant, jusque-là, c'était une partie décentrée du sentier, une enclave oubliée du Marais qu'on appelait avant le quartier République et que la gentrification nomme désormais le Haut Marais. Un petit havre de paix, tranquille, au point d'en être somnolent. Mais c'est ainsi que je l'aimais. Or, un projet allait transformer ma rue et les rues adjacentes en une zone de design gastronomique. Un projet tellement démesuré que je n'avais même fait un pied sur terre. J'avais interviewé Arnaud Duhem, à l'époque le représentant de Monsieur Naudon.
Nous aurons ici, à l'angle, à terme, une épicerie. Ici, un bar japonais. Ici, juste en descendant la rue, nous aurons un fromager. Nous aurons un glacier ici, une pâtisserie designée par Nendo, dans laquelle nous proposerons les pâtisseries de Yann Brice.
Des restaurants et des commerces de bouche devaient remplacer des boutiques vidées par le départ des derniers grossistes.
Hello.
Hey Ben. We'll speak after.
Je m'efforçais à m'habituer à l'idée de devenir une touriste dans ma propre rue, que désormais le New York Times qualifiait de futur village épicurien au cœur de Paris.
Quand on respecte la saison, on rajoute certaines complications. Ça veut dire que pour quelqu'un qui fait des cocktails, pendant une période de l'année, on n'a pas de citron en France, il faudra qu'il aille recréer de l'acidité autrement.
En fait, on donnait toujours le même exemple, c'était soit celui du citron.
Pendant l'été, il n'y a pas de citron, donc l'intégralité de nos cuisines, y compris nos barmen, travaillent sans citron pendant 4 mois de l'année.
Et dans le bœuf, pareil, les avants. tout ce qui était plutôt noble allait servir dans la boucherie et les arrières allaient servir en restauration.
Nous achetons des bêtes entières et nous les travaillons de la tête à la queue.
Et puis un jour, j'ai appris que tout s'est écroulé comme un château de cartes. Le promoteur du projet révolutionnaire, M. Cédric Naudan, était en prison. Que s'était-il passé ? Pour comprendre, je suis allée à la rencontre des protagonistes de ce projet. J'ai commencé par l'ex-directeur d'achat de Cédric Naudan.
Bonjour, je m'appelle Michel Duval, j'ai 47 ans et je me suis retrouvé dans une aventure qui s'est appelée la Jeune Rue, il y a de ça quelques années. En fait, j'étais directeur des achats de Publicis à l'époque et en parallèle de mon activité professionnelle, j'ai toujours été un fou de cuisine. Et puis, bah, il y a un monsieur qui, par l'intermédiaire d'un ami, a pris contact avec moi et il m'a raconté une histoire à dormir debout. La semaine d'après, on m'a rappelé et on m'a dit « Vous avez rendez-vous dans la rue Verbois avec un certain Arnaud Daguin ». Alors moi, Arnaud Daguin, je voyais très bien qui c'était, d'autant plus que j'avais voulu aller dans son restaurant, mais que malheureusement, il avait fermé entre-temps. Donc quand je vois Arnaud Daguin dans la rue et que Arnaud me raconte la même histoire de « là, ça serait une boucherie, là, ça serait une boulangerie », voilà. Je me dis « mais c'est pas possible, quoi, c'est mon métier, mon rêve arrive en même moment, quoi ».
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que voilà, ma passion pour la gastronomie et puis tout d'un coup, mon métier d'acheteur, de pouvoir mettre en place une logistique directe entre les producteurs et la restauration, plus d'intermédiaires directement. Bon. Et donc là, je suis reçu dans les bureaux de ce fameux Cédric Naudan. Et puis au bout d'une petite demi-heure de conversation, il me dit bienvenue. Comment ça, bienvenue ? Oui, voilà, j'ai besoin de quelqu'un comme vous pour ce projet. Une des formules, ça avait été de me dire, Michel, je veux que tu connaisses tous tes fournisseurs par leur prénom. Donc quand on vous dit ça, ça veut dire que bon, il faut être un peu proche de ses fournisseurs. Donc pendant 4-5 mois, j'ai fait le tour de la France, j'ai vécu un rêve. J'allais voir tous les producteurs dont j'avais lu quelque part, ou même que j'avais essayé à titre perso de prendre contact, entre autres Michel Bachès, qui est le plus grand collectionneur d'agrumes. Il y avait Roland Feuillas, qui est le maître du pain nature. Enfin voilà, toutes ces figures de la gastronomie en termes de production, je vais les rencontrer, je vais dormir chez eux même pour certains d'entre eux. Puis oui, je finis par les appeler tous par leur prénom. Donc voilà, ça c'est le début de l'aventure, tout se passe extraordinairement bien. On se retrouve quand même, alors qu'on n'a pas ouvert un restaurant, on est 110. Enfin c'est un truc, c'est invraisemblable. À force de vous dire l'argent n'est pas un problème et de se comporter comme ça, il y a un moment vous dites l'argent n'est pas un problème, pourquoi pas. J'ai omis l'aspect designer, c'est que tous les designers sont là. Michele De Lucchi, qui est quand même végétarien, fait une boucherie. Donc celle-ci, elle est quand même énorme. Il y a Patricia Navonet, qui n'avait jamais fait de lieu à Paris, qui fait un restaurant coréen qui fait à peine 30 mètres carrés. Elle se dit, mais le projet est génial. Et personne ne se pose la question d'où vient ce fameux millionnaire qui, soi-disant, a fait fortune aux États-Unis. Parce que, c'est le Père Noël. Et le Père Noël, on sait qu'il n'existe pas, mais quand on le voit en face de nous, on se dit, il existe.
Arnaud Daguin, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Dernier épisode de votre parenthèse en
Michel
santé.
Duval n'était pas le seul à croire au Père Noël. Il y avait aussi Arnaud Daguin, un nom connu de la gastronomie française, familier des médias.
Alors, je l'ai rencontré dans son bureau à l'époque, c'était sur la place Vendôme. Donc c'était un monsieur très chic, extrêmement moderne, avec des bureaux très modernes, des jeunes gens très beaux, qui bossaient beaucoup. Et donc il me dit, je veux faire de très beaux endroits dans lesquels on sert de très bons produits. Et ce monsieur apparemment était assez concerné par le design et par l'architecture. J'ai cru comprendre que quand il disait de beaux endroits, il savait à peu près de quoi il parlait. En revanche, quand il parlait de bons produits, je n'étais pas sûr qu'il savait de quoi il parlait. Et donc pendant presque un an, avant de commencer à travailler vraiment sur un projet quel qu'il soit, j'ai contribué à acculturer ce monsieur sur ce que pouvait être un bon produit et donc ce que pouvait être une bonne agriculture qui produise de bons produits. Il a fait gonfler une bulle incroyable. Vous savez, c'est quand même le mec dînait avec le patron de la BPI, quoi. Et il dînait avec, et à la sortie, il disait, on va avoir un emprunt de 14 millions. Ce que je sais, c'est j'ai vu la liste des gens avec qui il déjeunait au sergent recruteur pendant l'ingénierie financière. Je peux vous dire qu'il y en avait 2-3 du CAC 40, il y avait des patrons de banque, enfin moi j'ai vu arriver du monde. Hein. Quand vous croisez François Pinault qui sort du restaurant parce qu'il vient de déjeuner avec Cédric Naudan, Vous dites, tiens, on va avoir un nouvel actionnaire dans la jeune rue, c'est sympa. Vous dites pas, qu'est-ce qui magouille encore ces deux-là, quoi. Moi, cuisinière, Arnaud Daguin, je me dis, tiens, chouette. Un actionnaire de poids, ça va assurer le projet. C'est tout ce que je me dis.
L'apothéose, c'était la fête du veau tigré. C'était le printemps. En rentrant chez moi, j'avais aperçu des affiches. On annonçait une fête de quartier au croisement de la rue du Verbois et de la rue Volta. Un banquet où l'on pourrait rencontrer ses voisins. Je m'étais dit que c'était une idée chouette et je m'étais mise en tête de préparer un taboulé. J'avais acheté de la semoule, des tomates, du concombre et des herbes fraîches pour me mettre à la cuisine le lendemain matin. Mais dans la nuit, une odeur de fumée m'a réveillée.
Il fait une énorme flambée, du coup les voisins appellent les pompiers parce que ça fait des flammes à 4 mètres d'eau et ils ont très peur.
Je pense que c'est qui m'est passé par la tête,
oui,
effectivement.
Bien sûr, oui.
L'idée, Dodon voulait se rapprocher de la rue et de ses habitants et voulait montrer la qualité du veau tigre.
Lui, c'est Johan Berger, architecte. Il était le chef de chantier qui travaillait pour Cédric Nodon.
Et donc du coup, le producteur de veau tigre est monté de Corse avec son camion, sa remorque, deux veaux entiers. Et le lendemain, on avait notre veau qui était délicieusement bon et auquel, effectivement, tout le monde en a profité.
J'avais compris que ce n'était pas une fête de voisins à proprement parler, mais une fête de marketing de la jeune rue pour les riverains. Bien entendu, j'avais renoncé à mon taboulé.
C'est aussi maîtriser toute la chaîne, c'est-à-dire qu'on pose une assiette, une salade aux lentilles avec différents légumes dedans.
On est descendu pour goûter à ce formidable veau tigré qui nous était servi dans des petites assiettes en plastique par monsieur Cédric Nodon en personne.
C'est un écosystème, la jeune rue.
Évidemment, ce n'était pas la première fois qu'on le voyait, nous les riverains. Il était toujours dans la rue, les mains dans les poches, le buste en avant, les cheveux en arrière, l'écharpe conquérante.
Il avait toujours cette écharpe, on le voit sur les photos, et puis le torse un peu bombé comme ça. Une attitude un peu nonchalante, un peu hautaine et rigolarde. Il faisait des gueuletons, il y avait ce truc généreux, quoi. Amusez-vous, c'est pour moi, quoi.
Lui, c'est Paul-Henri Bizan. Il a été en charge de la communication.
Moi, j'étais ce qu'on appelle une plume. J'étais concepteur, rédacteur. J'ai même inventé le nom. Je l'ai trouvé dans Apollinaire, le poème Zone d'Apollinaire, qui avait été écrit en 1913, 100 ans exactement avant la naissance du projet.
C'était quoi le poème ?
C'était zone, ça commence par « Tu es là de ce monde ancien ». Et à l'intérieur, il y avait ce vers oui. Sublime qui est « Voilà la jeune rue et tu n'es encore qu'un petit enfant ».
Ma rue était rebaptisée. On pouvait entendre des Américains qui se baladaient dans le quartier en demandant « Where is the jeune rue ?». Il s'est avéré, quelques temps plus tard, que c'était une bonne question.
Je n'ai pas douté au début, moi j'ai eu le déclic positif. Il avait ses bureaux Place Vendôme, juste à côté de là où nous nous trouvons, au 7e étage. Il habitait à côté du Ritz, dans un grand appartement Place Vendôme également. Il arrivait en Ferrari, alors c'est pas l'histoire des paillettes, c'est pas ça du tout. C'est qu'il arrive avec des juristes, il arrive avec un avocat que je connaissais par ailleurs. Et donc du coup tout ça était crédible. Moi, je suis relativement connu par les designers, les architectes, pour mener à bien les travaux, et surtout dans les restaurants, l'hôtellerie, et de toutes ces parties-là. Et donc, du coup, mon premier réflexe a été de chiffrer les travaux, de chiffrer, au-delà des travaux, de chiffrer le projet, et de se dire que le projet coûtait autour de 30-35 millions d'euros. Mais une estimation relativement précise, c'est pas des chiffres jetés sur un coin de nappe. Et dès le départ, Nodon m'a dit, oui, bien évidemment, j'en suis conscient, la BPI nous suit et j'ai les fonds pour le faire. Donc c'était trop beau pour être vrai.
On l'avait tous, hein, une petite voix intérieure qui disait, c'est quand même un peu bizarre cette histoire. Et puis ben, les premiers travers commencent à arriver. C'est les fournisseurs qui vous rappellent en disant, c'est Michel, Michel, il a dû avoir un problème, mais le chèque que tu m'as donné la dernière fois, il est sans provision. Ah, bon. Alors là, je vais le voir, et puis il a toujours une bonne réponse. Ah oui, bah j'ai dû faire sur un mauvais compte, parce qu'il n'arrête pas de jongler entre différents comptes. Donc, premier chèque qui arrive non provisionné, et puis il commence à avoir des comportements qui ne sont pas normaux, quoi. J'apprends qu'il fait le tour des restaurants le soir pour récupérer l'argent, le cash. Bon, donc, je commence à avoir des produits que je peux plus avoir. à avoir des fournisseurs qui disent, bah, attends Michel, moi c'est bien gentil, mais là ça fait 3 mois que vous devez me payer, vous ne m'avez pas payé, donc on arrête. Donc très rapidement, il faut trouver des plans B à tout. Très rapidement, là où on devait acheter de l'excellence, on commence à aller se faire dépanner chez Métro. Les chefs sont même amenés à aller au Monoprix du coin pour pouvoir essayer de faire de pouvoir faire les menus. Après, c'est un château de cartes, hein, et ça va très vite. On est payé plus le 2 du mois, mais le 10, puis après le 15. Puis après, on nous explique qu'il y aura un mois de retard. Puis au final, on n'est plus payé.
J'ai sifflé la fin de la récréation le jour où, effectivement, j'ai compris, lorsque je lui expliquais ce qu'il fallait payer et ce qu'il avait reporté, puis reporté, et que je lui ai commencé... J'ai commencé par lui dire, bon, maintenant, il faut emprunter tel montant. Il faut absolument ce montant-là. Je me rappelle, c'était 8 millions d'euros. Et si on n'a pas 8 millions d'euros, maintenant, le projet va capoter, c'est pas possible. L'Anodon s'est énervé en me disant que, bien évidemment, c'était pas à moi de m'occuper de ça. Ce que je sais, c'est que sur la partie travaux, il a planté autour de 3,4 millions, uniquement sur la partie travaux. Hein. C'est-à-dire de factures non payées, de travaux engagés, de gens qui ont travaillé, qui ont donc payé leurs employés, qui ont payé leurs fournisseurs, qui ont... Donc ça, c'est autour de 3,4 millions. Moi, sur ma partie, il ne m'a pas payé 170 000 euros d'honoraires et j'ai fait l'énorme erreur de lui prêter 230 000 euros, donc de mes fonds personnels.
Il y a quand même des fournisseurs qui ont pris cher. Hein. Moi, il y a une dame qui nous fournissait des œufs bio qui a dû mettre la clé sur la porte après, hein, parce que quand elle n'est pas payée et que les œufs c'est 24 centimes l'œuf et qu'on vous paye pas, c'était une dame qui avait pas du tout de revenus, donc du coup elle a été obligée de fermer. Le trou final c'est 21 millions d'euros quand même, et on pense qu'il a mis à titre personnel moins de 50 000 euros. Et puis bon, il a été odieux. Hein. Il était venu un jour avec des gros bras pour me faire comprendre que de toute façon, si au tribunal je continuais à aller contre lui, ça se passerait mal. Des gens qui étaient là pour m'impressionner, mais bon, pour avoir des gros bras, il faut les payer. Donc comme il n'avait pas d'argent, je risquais pas grand-chose. Une fois que le masque est tombé, une fois que je me suis rendu compte à quel point je m'étais fait avoir, il n'avait plus aucun poids sur moi. Autant il a eu du poids avant. Vraiment. Et à un point, je vous dis, il m'a fait bosser comme un taré, à faire deux boulots en même temps et tout. Et vraiment, il a été capable de me... Mais une fois que j'ai vu clair dans son jeu, mais il m'impressionnait plus du tout. Et je le trouvais même, mais vraiment pitoyable. Moi vraiment, la fin de cette histoire a été bouclée le jour où on a appris qu'il a été en prison. Il était à Fleury, c'était plus Place Vendôme.
De cette histoire, les protagonistes ont tiré quelques leçons à destination d'un spéculateur fauché. Leçon numéro 1. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas d'argent. Si vous êtes bon et que vous montez un beau projet, vous pouvez obtenir des prêts.
L'idée d'être très gros tout de suite, plus vous êtes gros, plus vous attirez du monde. Donc on a eu les politiques qui sont venus. Nous, on a vu défiler tous les chefs. Et par respect pour eux, je ne les citerai pas, mais ils sont tous venus. Tous, parce qu'ils voulaient tous en être. Moi, j'ai des fournisseurs qui n'ont pas été payés pendant 3 mois, qui voulaient continuer, en disant « Non, mais on continue. » Moi, je l'ai vu aller dans des banques, l'accompagner et faire, mais vraiment, comme un marchand de tapis. Vous ne voulez pas ? Pas de problème, je vais à la banque d'en face et eux, ils vont vouloir. Et le banquier qui le rattrape par la manche en disant « Si, c'est bon, je vous accorde le prêt. »
Leçon numéro 2. Se construire un beau personnage.
Oui, alors en plus, il avait un côté très gourou, donc on avait le droit, une fois tous les 15 jours, une réunion un peu plénière où il parlait pour nous donner la culture de la terre.
Et les voitures, en fait, toutes ces voitures de luxe, en fait, c'était de la location. Très facile, voiture de location. Il suffit de pas payer la location. Hein.
Il avait à l'époque une femme et une fille, il l'a toujours. Et le fait qu'il ait une famille me rassurait. Dans mon esprit, un escroc est toujours un type un peu d'abord seul, pouvant partir à n'importe quel moment. Voilà.
Leçon numéro 3. Chercher des gens qui y trouvent leur compte sans être payés.
Quand on y allait sur un fournisseur sur lequel qui était quelqu'un de renom, ainsi de suite, sa technique, elle était assez simple. Il disait, en fait, moi, je vous propose un truc, c'est que je vous rachète. Et tout d'un coup, il inverse la vapeur. Parce que en face de lui, c'est plus son fournisseur. En face de lui, c'est son salarié. Et donc, la personne, du coup, se dit, attends, ouais, il ne me paye pas tout de suite, mais pas très grave, parce que comme il va me racheter, et ainsi de suite. Et ça lui a permis, entre autres, de tenir quelques mois. En disant, mais en fait, je ne vous paye pas maintenant, parce que comme je vais vous racheter, ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est de l'argent que moi, je vais retrouver. Donc, et ça passe. C'est diabolique. Et ça passe.
D'ailleurs, sans ce Smadja, Nodon n'aurait pas pu s'engrainer comme ça. N'aurait pas pu continuer. Et c'est Smadja qui, lui, avait pas mal de fonds de commerce dans la rue. Et à chaque fois, reproposait des lieux. Proposait des lieux, je l'ai appris après, en sous-location. C'est-à-dire que lui-même était locataire et sous-louait à Nodon. Et le loyer, Smadja, il demandait les loyers, mais Nodon ne pouvait pas les payer. Mais il lui disait, oui, mais c'est pas grave, regarde, je vais attaquer des travaux là, et on va faire ça comme ci, on va faire ça comme ça. Vous avez un local, vous faites des travaux, les travaux sont faits, ensuite, que ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, tant mieux aussi. Lui récupérait les lieux, les a reloués d'ailleurs, derrière.
Leçon numéro 4. Gardez le flou sur votre honnêteté et changez régulièrement de pays.
En fait, il régnait un peu par son mystère aussi, c'est-à-dire qu'il venait de nulle part, personne ne le connaissait. Donc c'était une attitude, d'abord d'assez bien s'entourer, parce que moi, quand je suis arrivé dans le projet, il y avait des gens que je lisais, que j'aimais bien, enfin que j'estimais, en tout cas pour leur travail, notamment en agriculture ou machin. Donc il absorbait d'un côté et pouvait ressortir de l'autre sur des sujets qui sont pas faciles, type l'agroforesterie, des trucs comme ça, la permaculture.
Je n'arrive pas à penser qu'il n'ait pas été... dans un compartiment du jeu un peu sincère dans le propos, parce que je l'ai vu quand même réagir, et puis je suis pas un perdreau de l'année. Hein. Bon, j'ai 60 balais aujourd'hui, à l'époque j'en avais un peu moins, mais quand même. Quoi. J'en ai vu du monde en passé, et le mec était sincèrement concerné par le fond du truc.
Ah non, il est malhonnête depuis le début. De toute façon, il revient en France, pas pour rien, c'est qu'en fait, il était frappé, il n'avait pas le droit d'avoir d'entreprise en France pendant 15 ans. Donc il revient au bout des 15 ans parce que il peut de nouveau faire des escroqueries en France. Et surtout, il fuit le Canada, sur lequel il a déjà une escroquerie qui a été jugée. Et donc il peut plus rester au Canada.
Leçon numéro 5. Se faire du temps un ami.
À force de pas payer rien, c'est-à-dire, tout prend un peu de temps. On apprend que finalement, vous pouvez, comme lui, ne jamais rien payer. Et que ça prend 3-4 ans avant de vous faire définitivement évincer de partout.
Depuis le début, l'idée d'ouvrir 36 lieux n'est pas anodin. Ça permet d'avoir 36 sociétés avec 36 prêts bancaires, de faire une pyramide. Le lieu 1 pour lequel vous prenez un emprunt vous sert à payer le lieu 2. Et le lieu 2 vous sert à payer le lieu 3, et ainsi de suite. Donc ça fonctionne. On va dire le temps que vous ayez les emprunts tout, mais il y a un moment, surtout qu'on est 110. 110, c'est une masse salariale de 300 000 euros.
Vous, pour reprendre ce qui vous a piqué, il vous faut 2 ans, faire appel à la justice, machin, tout ça. Pendant ce temps-là, il en jouit, en fait. Et après, au bout de 2 ans, la chose n'a plus d'importance. En fait, le moment de jouissance lui appartient.
Leçon numéro 6. Comme au Monopoly, ne pas avoir peur de passer par la case prison.
Quand on a tous été interrogés, on a demandé à la personne qui était en charge de l'enquête, on dit qu'est-ce qu'il risque ? Elle nous a dit il risque 5 ans de prison, mais en France, malheureusement, pour du détournement financier, on ne va pas en prison. Il a été en prison, il y a même passé 4 mois en préventive, et puis on est en attente du procès.
Vous pouvez vous l'imaginer en prison ?
Oui, je pense que c'est comme Madoff, il a dû prendre le pouvoir sur le marché du chocolat, quoi. Continuellement, même en prison, il a dû refaire des embrouilles. Je pense que c'est inarrêtable. C'est plus fort que lui, quoi.
Quant à moi, j'ai pu constater comment un spéculateur pouvait faire autant de bruit sans qu'il ne se passe rien. Quand je dis rien, c'est vraiment rien.
Alors là, vous voulez que je vous présente les lieux ? Là où on est, au croisement de la rue du Verbois, de la rue Volta, qui descend de la rue Notre-Dame de Nazareth. C'est le carrefour un peu emblématique de ce qui a été la Jeune Rue, ce qui a failli être la Jeune Rue. Parce que c'est ici qu'il y avait cette grande banderole lumineuse qui s'appelait la Jeune Rue. Donc ça, c'est Ibaji, c'est ce qui reste du seul restaurant, qui est un restaurant coréen, qui avait été fait pour la Jeune Rue. Et ça, c'était l'endroit où il voulait faire son premier restaurant. Donc il y a une grande boutique qui est un petit peu en retrait de la rue. Et donc il voulait faire quelque chose en sous-sol. Donc il avait demandé aux gens d'excaver. Et c'est un projet qui a duré un temps de dingue. Et donc il y avait des gens sans arrêt qui sortaient avec des brouettes. Je sais pas, là, il y a une poissonnerie, là, ça devait être, je sais pas, un marchand de légumes, une épicerie.
Effectivement, la devanture, c'est encore marqué notre boucher est aussi votre cuisinier. Et à l'intérieur, c'est vide. Et c'est vide depuis près de 3 ans maintenant.
Mais en attendant que soit résolu l'inextricable problème du commerce de proximité dans le monde moderne, je fais mes courses au Monoprix ou au Carrefour comme mes voisins. Et je suis contente d'avoir échappé à la transformation de mon quartier en réserve pour touristes de luxe. Pourtant, ma rue n'est pas sortie de l'auberge. Nodon n'y est plus, mais son rêve est toujours là.
Quelque chose qui a existé et dont la rue porte les stigmates, les traces, ça n'a même pas existé en fait. C'est-à-dire que c'était fermé avant, ça l'est toujours. En fait, il y a un mystère quand même à cette rue, c'est pourquoi cette rue n'existe pas. Il doit y avoir une raison, à un moment.
Éphémère, premier volet, c'était une enquête à suivre demain dans Les Pieds sur Terre, signée Ilana Navarro et réalisée par Cécile Lafont. Merci à Paul-Henri Bison, à Michel Duval, à Arnaud Daguin, à Joanne Berger et à Jean Guilin. Mais c'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Camille Richir, notre stagiaire.